Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous voilà maintenant entrés en plein dans le carême, la sainte quarantaine. Tant de grâce, notre Dieu, notre Seigneur, donne plus de grâce, on dit, pendant tout le carême que pendant toute l'année liturgique. Et saint Paul nous prévient que c'est le temps favorable, le jour du salut. C'est-à-dire qu'il y a des grâces qui sont à notre porte, il faut se baisser pour les ramasser. Si on ne se donne pas la peine de les baisser, de se baisser pour les ramasser, on n'aura rien du tout. Parce qu'il faut frapper. Celui qui frappe, on ouvre. Si on demande, on répond. Si on cherche, on trouve, nous dit notre Seigneur. Mais si je ne frappe pas, si je ne demande pas, si je ne cherche pas, je ne trouverai rien du tout. Alors je voudrais, dans ce début de sermon, en suivant l'esprit de l'Église catholique, vous savez que il y a des thèmes liturgiques sur lesquels l'Église insiste selon les différentes parties de l'année. La préparation au carême, l'Église, dans les bréviaires du prêtre, a beaucoup insisté sur le péché originel. Je voudrais un petit peu vous en parler parce que s'il est un dogme qui est fondamental, c'est bien celui-là. Et s'il est un dogme qui est complètement nié par l'Église moderniste, l'Église de Vatican II, c'est aussi celui-là. Si le péché originel n'existe pas, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a plus besoin de rédemption. Plus besoin de rédemption, tout s'écroule. Alors je voudrais, en suivant les explications données par saint Thomas d'Aquin dans sa somme, je voudrais vous rappeler la doctrine de l'Église concernant le péché originel. Vous savez que saint Thomas d'Aquin, qui est un génie pour la synthèse, pour qu'il veut expliquer le péché originel, il donne trois points. Il dit dans notre nature humaine, après le péché originel, il y a une partie qui ne change pas, une partie qui est diminuée et une partie qui est détruite. Et avec ça, on a tout le péché originel. Tout le péché originel. La partie qui n'est pas détruite, c'est notre nature elle-même. Saint Thomas d'Aquin utilise une phrase latine très courte, « Naturalia manserunt integra ». Les choses naturelles demeurent intègres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les puissances de notre âme sont toujours là. On a toujours une intelligence, toujours une volonté, toujours un irascible, toujours un concupiscible. C'est très important pour lutter contre le protestantisme. Martin Luther est le premier qui a dit « Le péché originel a détruit les puissances de notre âme ». Donc on n'est plus capable de connaître le vrai. On n'est plus capable d'atteindre le vrai. Donc les commandements de Dieu ne sont plus atteignables par nous. C'est trop élevé pour nous. Nous ne sommes plus capables de les suivre. Donc on n'est sauvé que par la foi. Mais l'Église catholique enseigne le contraire. Les puissances demeurent. L'objet de la puissance, la première puissance, c'est l'intelligence. Donc la puissance de l'intelligence... Le but de notre intelligence, c'est d'atteindre le vrai. Bon. C'est-à-dire d'abord savoir où il faut aller. Bon. On doit escalader une montagne, il faut savoir quelle montagne on va escalader. Bon. Deuxièmement, on a la volonté. Bon. L'objet de la volonté, c'est d'atteindre le vrai, le bien. C'est bien joli de dire, voilà, il faut monter sur cette montagne-là. Je sais, c'est la montagne qui est en face de moi qu'il faut gravir. Ça ne suffit pas. Il faut encore trouver le chemin qui monte en haut. Si je reste en train d'admirer ma montagne en disant, oui, je suis supposé être là-haut, mais je ne sais pas comment on y va, ça ne sert à rien. Donc la volonté va intervenir dont l'objet formel est le bien. Pour atteindre le vrai. On a découvert le vrai, où est le vrai par l'intelligence, il faut l'atteindre maintenant par la volonté. Il est évident que dès qu'on se met au service du bon Dieu pour essayer de le rejoindre, il y a le démon qui s'en mêle. Et donc, il faut une puissance de notre âme pour nous aider à atteindre le bien, dit saint Thomas, le bien ardu, c'est-à-dire le bien difficile à obtenir. Ce bien, cette puissance qui nous aide, dont l'objet formel est le bien ardu, c'est l'irascible. L'irascible, c'est une puissance de combat qu'on a en nous. Ira, en latin, c'est la colère. Irascere, c'est se mettre en colère. Donc, on a en nous une puissance pour vaincre les obstacles. Le monde, la chair et le démon. Dès qu'on cherche à suivre notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, le démon n'est pas content Il va s'en mêler. Et donc, il faut une puissance de combat. Cette puissance de combat, c'est ce qu'on appelle l'irascible. Enfin, on a une dernière puissance qui est le concupiscible. Concupiscere en latin, ça veut dire désirer ardemment. Le concupiscible a pour objet formel le bien désirable, c'est-à-dire les choses à désirer. Pour désirer les choses qui sont nécessaires pour nous. Bon. On a le droit de désirer les choses qui sont bonnes pour nous, mais on n'a pas le droit de désirer les choses qui ne sont pas bonnes pour nous et qui sont bonnes par contre pour le voisin. Donc ces quatre puissances, elles demeurent. Ça, c'est très important encore une fois pour lutter contre le protestantisme, mais c'est aussi très important pour se protéger du modernisme. J'ai connu un prêtre moderniste en Espagne qui m'a sorti en face, on ne peut plus prêcher la foi catholique parce que les commandements sont impossibles à suivre au XXe siècle. Si les commandements sont impossibles à suivre au XXe siècle, ça veut dire que Dieu s'est trompé en nous les imposant. Or, Dieu nous impose les commandements de Dieu, donc il est obligé de nous donner les moyens de remplir ces commandements. C'est du bon sens élémentaire. Donc ça, c'est le premier élément de saint Thomas, la partie qui ne change pas. Et puis, il y a une partie qui est diminuée. Vulneratus in naturalibus. Il y a des blessures dans notre nature. Le péché originel va blesser l'âme. Certes, le baptême va enlever le péché originel, mais je vous l'ai expliqué souvent, le baptême n'empêche pas des blessures du péché originel. C'est-à-dire qu'on garde les quatre puissances, l'intelligence, la volonté, l'irascible et le concupiscible, mais chacune de ces puissances va être blessée. C'est-à-dire qu'elle va avoir plus de mal à atteindre son objet. Ça, il faut bien méditer là-dessus, parce que c'est toute la racine de toute la vie spirituelle. Pourquoi on a besoin des sacrements ? Pourquoi on a besoin de se confesser? Pourquoi on a besoin de communier? Pourquoi on a besoin de faire pénitence? Pourquoi on a besoin de prier? Tout simplement à cause des blessures du péché originel. L'intelligence, dont l'objet formel est le vrai, je viens de vous l'expliquer, elle est blessée par l'ignorance. Nous sommes des ignorants, tous, moi le premier. L'ignorance va se faufiler dans deux domaines. L'ignorance, c'est de faufiler dans le sens qu'on oublie les choses qu'on a apprises. On est comme des enfants. On dit que pour un enfant, il faut répéter 70 fois la même chose, donc ça rentre dans la cervelle. Pour les adultes, je me demande s'il ne faut pas un peu plus parfois. Bon. Mais on oublie les choses qu'on a déjà apprises. Première chose. Deuxième point, l'ignorance entraîne le fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Donc il faut étudier. D'abord pour se rappeler les choses qu'on est supposé connaître, qu'on a déjà étudiées mais qu'on a oubliées, mais aussi il faut étudier tout simplement pour apprendre les choses qu'on ne connaît pas. Il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas. Un prêtre est obligé de travailler. Il n'y a pas que le prêtre qui est obligé de travailler. Moi je m'impose 3 heures d'études par jour parce que j'en ai absolument besoin pour maintenir mon intelligence, si vous voulez, en bon état. On a tous besoin de travailler, chacun en proportion de son devoir d'état. C'est évident que les laïcs ne doivent pas travailler leur foi catholique comme le prêtre, qui est tenu à cause de sa mission de prêtre, mais les laïcs sont obligés de lutter contre l'ignorance. Bon. Et n'oubliez pas qu'on a tous cette ignorance. C'est quelque chose qu'on oublie, ces choses. On oublie ces choses qui sont absolument élémentaires. Parfois, il y a des gens qui me disent « Monsieur l'abbé, pas de problème, moi je retiens tout. » Ah bon ? C'est pas possible. Parce que justement, tout le monde a l'ignorance, sauf si vous appelez notre Seigneur Jésus-Marie. Vous appelez notre Seigneur Jésus-Marie, si vous êtes notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, on n'est pas le péché originel, vous n'avez pas ce problème. Mais tous les hommes, tous sont nés avec le péché originel et même après le baptême, doivent donc se battre contre l'ignorance. Bon. Après, il y a la volonté. La volonté, c'est la faiblesse. La faiblesse va si vous voulez, travailler sur la volonté. Et cette blessure de faiblesse va faire qu'on a énormément de mal d'aller directement au but. On a une tendance à marcher un peu comme le serpent. Les conséquences de la faiblesse. Les deux péchés, la faiblesse va travailler, si vous voulez, pour nous empêcher de faire notre devoir d'État. Je reprends ça parce que là, j'ai fait une erreur. Contre la volonté, c'est la malice, pardon. La malice de la volonté, je me trompe. Donc la malice de la volonté, c'est le fait justement qu'on veut avancer comme un serpent, au lieu d'avancer tout droit vers le but. Et cette malice ne va pas détruire la volonté, attention, mais la malice va travailler sur la volonté pour la blesser. Et les deux péchés de malice traditionnels, c'est le vol et le mensonge. Donc, à cause de cette malice dans notre volonté, on a une tendance au vol, on a une tendance au mensonge. Les deux choses sont liées d'ailleurs. On dit que tous les voleurs sont des menteurs, même si tous les menteurs ne sont pas des voleurs. Donc la deuxième chose qui me blesse dans ma nature, c'est la blessure de malice de la volonté. Après, il va y avoir malheureusement aussi une blessure dans la troisième puissance de notre âme, qui est l'irascible. L'irascible, ça sera la faiblesse. La faiblesse, péché traditionnel de faiblesse, c'est la paresse. On est toujours très fort pour faire les choses qui nous plaisent bien, et toujours très faible pour faire les choses qui ne nous plaisent pas. Donc on a tous une faiblesse au niveau de l'irascible, une malice dans la volonté, une ignorance dans l'intelligence. Bon. Et enfin, le concupiscible est là aussi. Le concupiscible, je vous l'ai dit, a pour but le bien désirable, de faire désirer les bonnes choses. Concupiscere en latin, ça veut dire désirer très fortement. Eh bien, le péché originel va aussi travailler là-dessus. Au lieu de désirer les choses qui sont raisonnables, on va désirer les choses qui ne sont pas raisonnables, ou on va désirer les choses raisonnables de manière déraisonnable. C'est comme ça que travaille la blessure du concupiscible, on appelle ça la concupiscence. Distinguez les deux choses. Concupiscible, c'est une puissance de notre âme. La concupiscence, c'est la blessure de la du concupiscible. Bon, c'est tous les yeux, l'orgueil, les yeux, la chair. Bon. Donc, il faut le savoir, selon la doctrine de saint Thomas, qui est la doctrine catholique, eh bien, nos quatre puissances sont toutes les quatre blessées. C'est à cause de ça qu'il faut l'éducation des enfants. Qu'est-ce que c'est qu'éducation d'un enfant? C'est essayer de donner littéralement une canne pour marcher à ces enfants qui sont blessés par les quatre blessures. Et comme nous, adultes, nous avons toujours ces quatre blessures, puisque le péché originel, encore une fois, n'enlève pas les blessures, à cause de ces blessures que nous avons, eh bien, nous devons constamment nous battre. C'est pour ça que la vie spirituelle est un combat. Parfois, les gens me demandent, « Monsieur l'abbé, qu'est-ce que je peux faire pour être un catholique avec une petite vie bien tranquille en même temps ?» Je réponds toujours, « Faites-vous protestant. » Voilà, si vous voulez vous faire protestant, vous aurez ici-bas une petite vie bien tranquille. Vous aurez un petit problème technique avec le bon Dieu le jour de votre jugement. Donc, la vie catholique, c'est un combat. Et c'est ce point-là qui est le point rejeté par l'Église de Vatican II. Ils ne veulent plus un combat sur la terre. Quand ils ne croient plus au paradis, où exactement tout le monde y va, donc ils considèrent que le paradis est déjà sur la terre. Le paradis n'est pas déjà sur la terre. Et contre ces blessures, vous avez la formule moderne, jamais mourir, jamais souffrir. Enfin, troisième point dans saint Thomas d'Aquin, il parle d'une partie dans notre nature qui est complètement détruite. Donc une partie qui ne change pas, une partie qui est diminuée, les blessures, et une partie qui est complètement détruite. Spoliatus gratuitis, dit-il. C'est ces trois formules latines qu'on explique en long, large et en travers au séminaire. C'est-à-dire, les dons gratuits sont complètement éliminés. Quels sont ces dons gratuits? Ce qu'on appelle les dons préternaturels. Les dons préternaturels étaient quatre dons qui avaient été donnés à Adam et Ève. Immortalité, impassibilité, science infuse, intégrité. Immortalité, c'est pas supposé mourir. Impassibilité, pas supposé souffrir. Science infuse, ils étaient créés comme adultes, pas comme bébés, donc il fallait qu'ils aient déjà dans leur intelligence un potentiel intellectuel pour comprendre toutes les choses comme des adultes. Et ils avaient donc une espèce de science infuse, au moins limitée, mais en partie quand même. Et puis ils avaient l'intégrité, c'est-à-dire qu'ils avaient un ordre établi par Dieu dans leur âme. Dieu, l'intelligence, la volonté, l'irascible, le concupiscible et les passions en dessous. Par le péché originel, ces dons sont détruits. On les a tous perdus. On n'a pas perdu l'intelligence, la volonté, l'irascible, le concupiscible, mais on a perdu l'impassibilité, l'immortalité, la science infuse et l'intégrité. Donc, là encore une fois, vous voyez bien, entre l'enseignement traditionnel de l'Église catholique et l'enseignement du monde moderne, c'est le jour et la nuit. Parce que le monde moderne, l'Église du Vatican II, c'est la même chose, essaie de nous faire croire que d'un certain côté, on a gardé les dons. Donc jamais mourir, jamais souffrir. Jamais mourir, immortalité. Jamais souffrir, impassibilité. L'homme, c'est tout. La science infuse. Comme ça, vous avez l'intégralité des dons. L'intégrité est toujours là. Donc on peut suivre notre nature. L'homme est bon. C'est Rousseau, c'est le modernisme. Vous voyez comme il est capital de revenir à la doctrine traditionnelle concernant le péché originel. Et cette doctrine, elle a été établie par l'Église. Celui qui avait le plus expliqué cela, c'est saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique. Ce que je viens de vous expliquer, c'est tout simplement l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Si on a compris ça, on comprend pourquoi il faut tomber à genoux pour demander au bon Dieu les grâces dont on a besoin. Et pour expliquer justement cela, ce n'est pas pour rien encore une fois, que l'évangile du premier dimanche de carême tombe précisément sur les explications, la pratique de ce que je viens de vous dire, c'est quoi? C'est les trois tentations de notre Seigneur. Parce qu'il y a la concupiscence, la blessure du concupiscible, les yeux, l'orgueil et la chair. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté trois fois. Et dire, mais notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas le péché originel. Certes, mais lui qui n'a pas le péché originel a été tenté par notre Seigneur. Alors vous pensez bien que nous qui avons le péché originel, on va être tenté bien plus. Et notre Seigneur Jésus-Christ a accepté d'être tenté par le démon, justement pour nous enseigner à lutter. Et les pères de l'Église expliquent que ces trois tentations qui se sont présentées à lui par le démon, que le démon lui a présentées, première tentation, les pains. Deuxième tentation, le mettre au sommet du temple en lui demandant de se jeter en bas. Et troisième tentation, le mettre au sommet de la montagne en lui disant « Tout ce qui est devant toi, je vous le donne, je te le donne. » Ces trois tentations représentent les trois concupiscences. Les pains, c'est la chair. Se mettre au sommet du temple, c'est l'orgueil. Et la montagne, c'est la concupiscence des yeux. Et bien, notre Seigneur Jésus-Christ, justement, nous résume tout ça par la phrase de l'Évangile. Arrière Satan, vade rétro Satan, arrière Satan. On ne discute pas avec le démon. Voilà pourquoi le bon Dieu, si vous voulez, par la confession, par la communion, va nous donner toutes les grâces dont on a besoin. Parce qu'on a besoin de grâces extraordinaires, à cause des blessures du péché originel. Et entre autres, dans le cadre de ces trois tentations, des trois concupiscences, on va avoir besoin surtout de la vertu de tempérance pour lutter contre la tentation de la chair. On va avoir besoin de la vertu d'obéissance pour lutter contre l'orgueil et la vertu de l'esprit de pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux. Puis on va avoir besoin aussi des quatre vertus qu'on appelle les vertus cardinales, prudence, justice, force, tempérance. Justement pour lutter contre les blessures, tout simplement. Par exemple, si je sais que je suis ignorant, quelle est la vertu dont j'ai besoin pour lutter contre l'ignorance? C'est la vertu de prudence. Ce qui est la reine des vertus cardinales. Après, pour lutter contre la malice de la volonté, j'ai besoin de la justice. Pour lutter contre la faiblesse, j'ai besoin de quoi? La force. Et pour lutter contre la concupiscence, j'ai besoin de la vertu de tempérance. Où est-ce que je vais obtenir ces vertus? Je vais obtenir ces vertus à chaque fois que je communie. Je vais obtenir ces vertus à chaque fois que je me confesse. Voilà pourquoi on a besoin de la confession, voilà pourquoi on a besoin de la communion, et voilà pourquoi l'Église catholique a toujours, toujours poussé justement sur la réception des sacrements. Et voilà pourquoi aussi le démon a travaillé pour détruire précisément ces deux sacrements. Dans l'Église de Vatican II, la messe, la bouillie pour chat, c'est plus rien du tout. Ce n'est plus le renouvellement sanglant du sacrifice du calvaire. La messe, c'est un repas, c'est tout ce que c'est. Donc, il n'y a plus la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. S'ils ne sont plus prêtres, il n'y a même plus de confession. Il n'y a plus rien. Comment voulez-vous que les gens qui suivent l'Église de Vatican II puissent arriver à remplir ce combat spirituel? C'est impossible. Alors, vous allez me dire, monsieur l'abbé, si j'ai bien compris votre serment, il n'y a plus qu'à se tirer une balle dans la tête. Non! C'est pas ce que je vous demande. Parce que justement, le bon Dieu nous donne les grâces. Le bon Dieu, contrairement à ce que raconte Luther, ne nous demande pas des choses impossibles. Mais il nous rappelle, par le temps du carême, qu'on ne peut pas, par nos propres forces, monter au ciel. On ne va pas au ciel à la force du poignet. On va au ciel avec la grâce du bon Dieu. Et donc, il faut demander ces grâces. dire, mais monsieur l'abbé, est-ce que le bon Dieu s'occupe de nous? Bien sûr qu'il s'occupe de nous. Aussi cette phrase magnifique qui est dans l'épître du mercredi des Cendres. C'est une phrase du pauvre prophète Joël que j'aime beaucoup. Convertissez-vous à Dieu parce que Dieu est bon, compatissant, patient et riche en miséricorde. Et tout là-dedans. Le bon Dieu est bon, pas pour rien qu'on l'appelle le bon Dieu. Le bon Dieu est bon, il est plein de bonté, il ne veut qu'une seule chose, c'est que tous les hommes aient au paradis. De volonté antécédente, dit saint Thomas, Dieu veut le salut de tous les hommes. Évidemment, il ne va pas les prendre la peau du cou, les amener au paradis contre leur volonté. Donc celui qui refuse d'utiliser sa volonté pour aller au ciel, évidemment, il reste à la porte. Bon, Dieu est aussi patient. Dieu sait si vous et moi, on le sait. À quel point le bon Dieu attend, revient. Quand on ferme la porte au nom du bon Dieu, il ne va pas partir en disant « Très bien, je ne reviens pas ». Il revient, il refrappe, il re-refrappe, il re-refrappe. Il va refrapper des dizaines et des dizaines de fois jusqu'à ce qu'on finisse par ouvrir la porte. Et même si on le remet dehors par un péché mortel, il revient pour nous donner la grâce d'aller se confesser et retrouver la grâce du bon Dieu. Donc il est bon. Il est aussi compatissant, nous dit le prophète Joël. Un mot magnifique. Compatissant. La compassion, c'est la souffrance avec l'être qu'on aime. Cum patere en latin. Compatissant, ça veut dire que Jésus, Dieu, voit l'homme qui est écrasé par le démon, écrasé par le monde, écrasé par la chair, écrasé par l'orgueil, écrasé par les yeux, les tentations des yeux. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu envoie son fils pour devenir un enfant, un bébé d'abord, puis un adulte, vivre sur la terre pendant 33 ans et mourir comme le dernier des esclaves écrabouillé sur une croix. C'est ça la compassion de notre Seigneur. Il n'y a pas de plus grand amour que d'aimer ce qu'on aime, que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et enfin, notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit le prophète Joël, est riche en miséricorde. La miséricorde, c'est ça. La miséricorde, c'est-à-dire que je demande quelque chose au bon Dieu, et non seulement il me donne ce que je demande, mais il m'a donné 10 fois plus. Mais il donne selon ce dont j'ai besoin. Il ne donne pas selon ma volonté, selon sa volonté à lui. Voilà ce qu'il faut comprendre, mes bien chers frères, en ces débuts de carême. Donc utilisons bien toutes ces grâces du carême, sans oublier évidemment un point fondamental, c'est que toutes ces grâces nous sont données pour la Très Sainte Vierge Marie, puisqu'il a voulu que toutes ces vertus dont je viens de vous parler, les vertus cardinales, les vertus morales, les vertus théologales, tout ça vient par la Très Sainte Vierge Marie. C'est par elle que ça passe, parce qu'elle est le cou de l'Église, parce qu'elle est l'aqueduc de l'Église, c'est l'expression de Saint Bernard. Elle est l'aqueduc qui amène les grâces du ciel à la terre. Cette personne qui est l'intermédiaire du bon Dieu pour toutes ces grâces, parce qu'elle est co-rédemptrice du genre humain et médiatrice de toutes les grâces, c'est la Très Sainte Vierge Marie. Donc on ne peut pas aller au ciel sans ses grâces, donc on ne peut pas aller au ciel sans la Très Sainte Vierge, c'est impossible. Donc demandons, en ce début de carême, mes bien chers frères, mes chers amis, demandons justement cette grâce d'avoir cette dévotion à la Très Sainte Vierge Marie. C'est comme un médecin, si vous voulez, qui est nécessaire pour le salut du corps de quelqu'un qui est malade. Donc quelqu'un qui est malade, première chose qu'il doit faire, c'est reconnaître qu'il a besoin d'un médecin. Comment voulez-vous soigner quelqu'un qui est malade qui refuse de reconnaître qu'il est malade? C'est impossible. Au contraire, si un patient sait avec humilité demander l'aide du médecin, le médecin à ce moment-là va lui donner les choses dont il a besoin. Bon, sauf que les médecins humains, souvent ils se trompent. Par contre, le médecin divin, lui, il ne se trompe jamais parce qu'il sait ce qu'il fait. Et il donne ses grâces par l'intermédiaire de sa mère, puisque c'est d'elle qu'il a reçu son humanité. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons cette grâce, cette lumière dont nous avons tous besoin pour pouvoir profiter justement du carême et nous mettre, par la résurrection de Pâques, nous mettre sur le chemin vraiment qui mène au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.